à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Canal FM.
Très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Il est 11h, vous comprenez sans doute que vous avez rendez-vous avec le débat de l'actualité, bien sûr. Nous sommes au mercredi 3 avril de l'année de grâce 2024, 11h, bien sûr. Merci de nous recevoir chez vous pour ce troisième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. La mise en onde de l'émission de ce jour est assurée par Michel Vitok Betomega et comme toujours, Jérôme Akoutia sur la mise en ligne. Je suis au micro Pascal Lossou. Vous nous suivez en direct partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dabaon. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio et aussi des invités. Confrères journalistes en studio, nous sommes au mercredi et vous comprenez que nous parlons santé. William Abel, bonjour.
Pascal, bonjour. Bonjour à tous les branchés de Canal FM.
Comment tu vas?
Ça va, on rend grâce à Dieu.
On rend grâce à Dieu. Je pense que tu es en bonne santé et donc tu es venu alors pour nous parler de santé, bien sûr. Et santé, éducation, c'est bien le fait, bien sûr. Santé, éducation qui est dans les kiosques ce matin. Vous titrez à la une alors de votre journal de ce matin, faute été contre douleur articulaire. Et vous vous intéressez à cette légume-là hein, que nous appelons dans notre langue locale faute été.
Exactement. Cette plante, ce légume, ces feuilles qu'on trouve dans nos marchés, sur les étalages de nos bonnes dames, des feuilles très nutritives et très thérapeutiques. Vous savez, en français, on l'appelle les feuilles d'amarante africaine. Donc, en langue locale, c'est fotété. Bon, vous allez au marché, vous demandez fotété, les bonnes dames vous serviront ce légume, cette plante. Donc, ces feuilles, bien, cette plante présente des meilleures propriétés nutritionnelles, c'est-à-dire des sels minéraux, du fer, du calcium, des protéines, du magnésium et des acides aminés. Et quand vous combinez les protéines de fotété avec les protéines d'autres légumes, par exemple du gboma, et avec aussi les protéines, accompagnées des protéines de manioc, ou bien de la pâte de mil, de maïs, vous avez déjà un aliment complet. Donc, et cet aliment complet, c'est-à-dire combat les carences protéiques. Donc déjà, c'est complet. Et vous allez voir que dans cette parution, nous avons fait un focus sur les douleurs articulaires. Parce que, d'après plusieurs études, c'est que et la consommation de ces feuilles prévient les douleurs articulaires et prévient une maladie qu'on appelle l'ostéosporose. Donc, l'ostéosporose, c'est quoi? C'est une maladie osseuse liée à la diminution de la densité de l'os. Donc, l'os devient fragile et moins résistant et par conséquent, on est à risque de fracture. Donc, la consommation de ces feuilles-là prévient cette maladie. Et ça assure ou bien ça favorise la croissance de l'os et sa fortification. Donc, et c'est une plante qu'on trouve sur le marché et nous demandons aux consommateurs, nous demandons à tous les ménages d'en consommer pour que nous ayons une immunité optimale.
Voilà, Fontété, je pense que c'est un légume hein, qu'on peut retrouver dans tous les marchés pratiquement, hein, chez les bonnes dames, bien sûr. On peut retrouver cela et donc la consommation est vraiment intéressante. Bien sûr. Alors, vous vous intéressez également à autre chose, c'est un infarctus. L'infarctus, et vous écrivez un article hein, sur l'infarctus et vous dites comment vivre après un infarctus.
Oui. L'infarctus, c'est quoi? L'infarctus du myocarde, souvent, c'est d'abord l'une des premières causes de décès dans le monde. Vous savez, c'est comme la destruction d'une zone plus ou moins étendue du muscle cardiaque. Donc, c'est causé par l'obstruction d'une artère coronaire par des plaques d'athérome. Quand on parle de plaques d'athérome, il s'agit des dépôts de graisse qui s'accumulent en fait dans ces artères-là. Donc, conséquence, les artères, les parois des artères se durcissent et ça forme un caillot. Donc le cœur n'est plus suffisamment alimenté par l'oxygène. Donc, ça peut causer un infarctus. Donc, le patient ou bien le malade est exposé à un risque accru de complications, voire de décès. Mais quand on est atteint d'infarctus, c'est vrai qu'il y a une prise en charge qui est là, une prise en charge adaptée pour le patient. Maintenant, après la prise en charge adaptée par le patient, comment est-ce qu'il faut alors vivre normalement? Parce que l'important, c'est d'éviter les risques de récidive. Parce que les risques de récidive sont tellement énormes. D'après certaines études, il est particulièrement élevé dans les 40 jours qui suivent l'infarctus. Donc, c'est pour éviter les risques de récidive. Comment est-ce qu'il faut vivre après un infarctus? Donc, l'important, c'est d'adopter ou bien de prendre des mesures hygiéniques et des mesures diététiques. Donc, toutes ces mesures doivent être surveillé, contrôlé par un médecin cardiologue. Alimentation, mode de vie, et sport, activité physique, traitement médicamenteux. Donc, toutes ces mesures-là doivent être contrôlées, surveillées par un médecin cardiologue.
Abel, je suis intéressé hein, par cet article-là également qui est dans votre journal hein, ce matin. Et c'est par rapport à ce malaise-là que nous avons souvent. Vous parlez alors de mal de gorge en avalant et vous nous parlez alors des causes et remèdes.
Exactement, le mal de gorge, ce n'est pas une maladie. Le mal de gorge n'est pas une maladie. Le mal de gorge, c'est un symptôme qui est fréquent. Donc, et qui se caractérise par en fait l'inflammation d'une région de la gorge. Donc ça peut être le pharynx, ça peut être le larynx, ça peut être les amygdales en fait. Donc on peut ressentir des rougeurs, on peut ressentir des brûlures, des gonflements et surtout des douleurs en fait au niveau de la gorge. Donc c'est ça en fait qui rend en fait la déglutition, c'est-à-dire le fait de mâcher, d'avaler très douloureuse et difficile pour beaucoup de personnes. Donc, le mal de gorge, on a cité beaucoup de causes dans l'article. La plupart de ces causes sont virales, c'est-à-dire dues à un virus. Donc, et vous allez voir aussi qu'il y a d'autres causes également qu'on a énumérées. Mais l'important ici, c'est que en cas de mal de gorge, on peut voir que le système immunitaire est affaibli. C'est-à-dire, c'est un virus dans la gorge,
dans la gorge.
Ça dit, voilà, qui attaque tout le système immunitaire. Donc, l'organisme est faible, l'immunité est affaiblie. Et donc, pour le rebooster, c'est-à-dire qu'il faut rebooster l'organisme par une alimentation équilibrée. Les légumes, les soupes, les tisanes, et surtout, diagnostiquer par un médecin. Donc, attention à l'automédication.
Attention à l'automédication.
Voilà. Si on a ce mal, il faut aller à l'hôpital pour un diagnostic.
Il faut possible. Aller à l'hôpital. Ce sont des articles à retrouver dans votre journal Santé Éducation de ce matin, Abel.
Oui, exactement.
Et c'est à quel prix? Et si nous voulons le PDF?
La version numérique, la version PDF est déjà sur notre site internet www.santé-education.tg à 500 francs. Et la version papier déjà dans les kiosques également à 1000 francs.
D'accord. Merci beaucoup, Abel, d'être passé dans cette émission. Alors, quand on parle de santé-éducation, il y a le directeur général de santé-éducation qui est avec nous, Basile Mignaké. Bonjour.
Bonjour, Pascal, et puis bonjour à nos fidèles.
Oui,
auditrice de Radio Canal FM.
Voilà, Basile, nous venons alors afin de faire en quelque sorte un parodiement des articles, de quelques articles, j'allais dire, alors de votre journal. Mais je vous ai invité alors pour cette activité que vous avez initiée, cette activité même d'ailleurs qui a été lancée ce matin, oui. Concernant surtout la sensibilisation, une campagne de sensibilisation que vous avez lancée pour les vendeurs de journaux. De quoi s'agit-il concrètement?
Oui, Pascal, merci beaucoup. C'est en prélude à la Journée mondiale de la santé qui sera célébrée le 7 avril prochain, qui a pour thème notre santé, nos droits. Notre santé, nos droits. Et je me rappelle que en 2014, à Cape Town, il y avait ce mouvement mondial qui s'était réuni là pour dire que the health for us now, santé pour tous maintenant. Donc, si l'OMS revient sur cet aspect de que la santé, c'est un droit, ce qui veut dire que il faut une action, une synergie pour rendre vraiment cet aspect possible. Parce que des fois, on le dit, mais en réalité, ce n'est pas ça. Et donc, pour cette occasion, nous avons réuni les vendeurs de journaux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Togo, aujourd'hui, la messagerie a de plomb dans l'aile. La messagerie n'existe pas. Donc, lorsque le journaliste écrit un article, il faut quelqu'un pour convoyer ça, pour rendre accessible, digeste, auprès des lecteurs. Et ce sont les distributeurs.
Mais c'est des gens que nous ne voyons pas souvent dans la chaîne. Hein?
Tout à fait. Alors que ce sont des personnes très importantes sur la chaîne. Parce que c'est eux qui servent. C'est eux qui sont les canaux pour apporter l'information aux lecteurs de lire et puis d'en tirer toutes les conclusions, bien les conséquences. Et donc, nous, à Santé Éducation, ce n'est pas notre première activité, mais pour en matière de sensibilisation en santé, nous avons voulu cette fois-ci aller voir ces distributeurs-là, aller leur rendre d'abord cet hommage, cette reconnaissance qu'ils sont importants sur cette chaîne-là. Et donc, leur santé nous préoccupe parce qu'ils doivent être en bonne santé pour vaquer, pour apporter les journaux. Et puis, ils sont aussi nos informateurs. Parce que les critiques qui viennent des lecteurs, c'est eux qui nous les ramènent pour améliorer, pour rendre ce menu plus encore digeste pour eux.
Puisqu'ils sont en contact direct avec les lecteurs.
Tout à fait. Et donc, nous avons pensé de discuter avec eux sur cet aspect-là. Et puis aussi, de dire qu'il y a cette opportunité que le gouvernement a servi à nos populations, c'est AMU. Ils sont à quel niveau? Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est comme ils sont en marge de tout ça là. Donc nous voulons que, comme les journalistes aussi se sont cotisés à des fêtières, ça sera l'occasion pour eux de se retrouver dans une association pour profiter de cette opportunité là. Parce que la prise en charge des maladies, lorsqu'ils se présentent dans une formation sanitaire, leur revient est très onéreux, très cher. Donc, comment faire? Donc, on a discuté avec eux, on a donné des conseils, tout ça là. Donc, et puis, on leur dit que, comme c'est eux qui servent nos populations, donc nous aussi, nous allons à notre tour de les servir, de leur donner cette opportunité pour qu'ils puissent être en bonne santé. Parce que si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas booster notre développement. Donc, Santé Éducation a compris. Et donc, c'est ce que nous avons fait à leur endroit pour leur maintenir toujours en bonne santé. Parce qu'ils sont des pères de famille, ils vivent que de ça. Chaque temps, ils sont sur la route, dans le bureau, dans des centres, et puis en train d'expliquer même, d'amener les gens à lire. Donc, il faudrait qu'on ait un regard vraiment humaniste voilà. Envers ces personnes-là. Hein. Nous pouvons aussi le faire. Ce qu'ils sont en train de faire, nous pourrons aussi le faire. Donc, il faut qu'on puisse les reconnaître vraiment leur devoir et ce droit-là pour les accompagner. Donc, c'était en prélude, c'est notre cible de cette année. Nous avons dit qu'on va éduquer, informer aussi ces distributeurs-là pour qu'ils puissent se prendre en charge.
Et donc, quelle sera la suite alors de ce projet?
Oui, la suite de ce projet, parce que vous savez, Santé Éducation, c'est une agence de communication de la promotion de la santé. Chaque jour que Dieu nous fait à Santé Éducation, sur notre plateforme de Santé Éducation, www.santéeducation.tg, on met des articles. Et il y a des articles qui sont libres. C'est pour informer davantage nos populations. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté, les auditeurs qui nous écoutent, les responsables, ceux qui ont cette responsabilité de tenir notre santé, savent ce que nous sommes en train de dire, que chaque jour, il y a des dizaines de Togolais qui sont foudroyés par des AVC, qui se retrouvent dans des formations sanitaires. Et la prévention doit être en amont. Mais malheureusement, nous avons constaté, vous et moi ici, que la prévention n'est pas soutenue. La prévention n'est pas... On ne met pas beaucoup d'argent parce qu'il y a cette urgence-là qui est là, hein, médicaments, traitements, et nous sommes dedans et c'est difficile de sortir de l'auberge. D'accord. Mais nous, en Santé Éducation, on a pris sur nous, avec vous aussi, hein, que de donner l'alerte que la situation au Togo, aujourd'hui, nous sommes le deuxième pays en Afrique francophone et en Afrique de l'Ouest où l'obésité est... pas tout à fait encourageant. Donc, il faut donner les informations.
D'accord, merci beaucoup, Basile Mignaké, d'être passé dans cette émission. Merci, nous bon. Encourageons hein, pour ce projet merci. Et également pour ce que vous faites et surtout alors pour les informations en matière de santé de nos populations. Merci d'être passé dans cette émission. Alors, nous sommes rejoints par des confrères journalistes. Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi pour le retard.
Oui, je sais que ce n'est pas dans votre habitude.
Oui, vous savez que c'est la haute saison, donc on est presque au four au moulin.
Tout à fait.
Donc voilà.
Abbas, bonjour.
Bonjour Pascal.
Abbas Issaka, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs et autrices de la radio Canal FM qui nous écoutent en ce moment.
J'espère que vous n'êtes pas aussi au four et au moulin.
Bon, c'est lui qui est au four au boulin. On se comprend.
En réalité, pour faire court, en fait, nous étions avec... il y a eu une rencontre entre quelques médias et la force élection législative et régionale. Donc, ça vient donc d'être terminé. Donc, de là,
surtout que la campagne électorale
Que la campagne commence demain. Oui. Donc, il faudrait aussi connaître les commandants donc, de la force. Vous savez, nous serons sur le terrain et tout ça. Donc, il faudrait que nous travaillions ensemble hein, pour que un heureux aboutissement donc, de ce processus.
C'est très
important. Donc, nous étions là donc, à la fin. Donc, comme j'aime beaucoup Canal FM, j'ai couru.
On le sent. Merci.
Non, alors, ça vient d'être fini. Oui.
Voilà. Chers confrères, nous savons que l'actualité politique dans notre pays est marquée depuis un temps par le changement de régime politique. Une initiative d'un groupe de députés à l'Assemblée nationale, vous le savez, cette nouvelle loi fondamentale qui bascule le Togo dans un régime parlementaire a été voté à l'Assemblée nationale depuis le 25 mars dernier. Nous connaissons la suite. Le chef de l'État a renvoyé le document à la présidente de l'Assemblée nationale pour une relecture. C'était le vendredi dernier, le vendredi 29 mars. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec l'un des députés, hein, initiateur et même d'ailleurs de cette proposition de révision constitutionnelle. Et c'est professeur Koffi Sodokin. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député à l'Assemblée nationale.
Je voudrais profiter pour dire bonjour aussi aux éditeurs de Canal FM. Et c'est un plaisir de me retrouver ici.
D'accord.
Parce que parfois mon nom a été prononcé tout le temps ici, mais j'ai jamais été.
Ah ben Dieu merci que vous êtes là.
Invité, donc c'est avec un grand plaisir.
Tout à fait, ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Voilà, je l'ai dit maintenant dans mon mot introductif que déjà il y a l'actualité qui est dominée hein, par cette question de révision constitutionnelle. Et c'est vrai, tout au début, beaucoup de gens se posaient la question de savoir mais qui sont les initiateurs alors de ce projet, quelle est même d'ailleurs l'opportunité de ce projet, est-ce que c'est opportun qu'on ait vraiment une telle proposition en ce moment. Moi, ma première question que je voudrais vous poser, monsieur le député, d'où vient concrètement alors cette révision constitutionnelle ou cette proposition?
Je voudrais te remercier pour la question que je trouve très excellente. C'est une très bonne question. Pour revenir sur la préoccupation en lien avec l'initiation, qui sont les initiateurs, pourquoi avoir initié ce projet, il faut juste reconnaître que les députés sont dans leur droit de travailler à l'Assemblée nationale, de faire des propositions de loi. Ça fait partie également des prérogatives d'un député à l'Assemblée nationale. Et donc vous conviendrez avec moi que une assemblée qui avec des députés inertes, bon, c'est la population qui parlera, qui dira que bon, ben les députés là ils font quoi. Donc les députés, compte tenu d'un certain nombre de constats, puisque nous sommes là pour proposer des lois, y compris la Constitution nous autorise à faire un projet de loi, la loi fondamentale, donc la Constitution nous l'autorise. Et donc, on a trouvé que compte tenu de l'évolution de nos traditions, de notre passé, mais aussi des aspirations qui sont profondément universelles, qu'on pourrait regarder, pourquoi pas, certaines des dispositions qui avaient été tentées dans le passé. Donc, je voudrais tout simplement citer ici l'article 66 de l'acte 7 de la Conférence nationale souveraine. Cet article dit tout simplement que pendant la période de transition, qui avait été une période de transition qui avait été présidée par Kofi Go, qu'on va expérimenter, que cette période de transition va être expérimentée avec un régime parlementaire. C'est ce qui a été fait. Voilà. Donc, pourquoi pas, les députés ont réfléchi que ce régime conviendrait bien et le Togo ne serait pas le premier pays. Il y a d'autres pays dans le monde qui ont expérimenté ce régime par le passé qui marche très très bien. Et pour créer un peu plus d'harmonie et pour créer un peu plus de partage du pouvoir, bon, un certain nombre de députés, puisque la Constitution nous l'autorise, nous donne le droit de faire, bon, on a réfléchi à voir comment est-ce qu'on peut faire avancer le Togo sur un point de vue beaucoup plus démocratique. Puisque c'est de cette démocratie que nous parlons, nous réclamons la démocratie. Pourquoi ne pas faire avancer le Togo sur un point de vue démocratique et éviter à ce qu'on ne soit focalisé sur le président de la République et qu'on puisse mettre en place un système où un responsable s'occupe vraiment du développement du pays et que le président soit le garant qui assure la quiétude et qui a à sa disposition non seulement sa majorité, mais à qui l'opposition aussi peut appartenir. Vous savez qu'en Angleterre, la reine ou bien le royaume a ce qu'on appelle, à part la majorité qui est à la Chambre des communes, le roi ou la reine a à sa disposition ce qu'on appelle le shadow cabinet, qui est composé essentiellement de l'opposition. Et en fait, l'opposition appartient aussi à la reine, malgré sa majorité. Il écoute son opposition. Bon, ici, nous ne disons pas qu'on veut mettre en place un roi, mais vous avez d'autres républiques également, comme par exemple l'Italie, qui expérimentent ce même système parlementaire. Et pour finir sur cette première question, ce n'est pas forcément quelque chose qui vient de l'Occident ou de l'Europe, mais qui est ancré fondamentalement dans nos traditions. C'est parce que nous ne lisons pas. Quand vous lisez par exemple l'arbre à palabre de Ampateba, il ne parle que du régime parlementaire. L'arbre à palabre de Ampateba, tout le monde peut vérifier. Il ne parle que du régime parlementaire. C'est un écrivain africain. Vous lisez également le Cercle des Tropiques d'Alioune Diop. Il ne parle que du régime parlementaire. Comment est-ce qu'on peut arriver à utiliser nos traditions, moderniser nos traditions et rendre cette modernisation-là
applicable pour le temps actuel, pour faire avancer la démocratie dans notre pays. Mmh. Voilà un peu quelques raisons qui ont poussé l'Assemblée nationale, on va dire, à initier ce test. Parce que c'est vrai, on dit, il y a les députés qui ont initié. Mais après avoir proposé la loi, on soumet au bureau de l'Assemblée nationale. Et la présidente, bien le président de l'Assemblée nationale, dans le cas espèce, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, qui est un grand travailleur d'ailleurs, soumet la proposition à sa conférence des présidents. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est la conférence des présidents qui dit, ah, la proposition de ces députés peut être soumise à la plénière pour voir si ça passe ou pas. Donc, c'est à partir de ce moment que la plénière donne l'autorisation à ce qu'on fasse passer le test. Bon, on soumet le test en commission. Il y a un gros travail qui va être fait, qui a été fait sur plusieurs semaines, avant que le test n'arrive à la plénière pour son adoption. Donc, je peux m'arrêter là.
Voilà, monsieur le député. Et c'est vrai, d'aucuns estiment que vous avez eu pratiquement 5 ans pour travailler à l'Assemblée nationale. Pourquoi c'est à la fin de votre mandat que vous vous précipitez pour voter une telle loi d'envergure?
Je vais vous donner deux citations de Einstein. Il dit, il y a deux manières de voir le monde. Il y a ceux qui pensent que tout est miraculeux et tous ceux qui pensent que rien n'est miraculeux. La deuxième citation de Einstein, il dit, si vous avez une heure, si vous avez un travail à faire et que vous avez une heure pour rendre votre copie, que lui préfère passer 45 minutes à réfléchir sur la question et 15 minutes à rédiger la réponse. La périodicité n'a pas d'importance. Il faut le temps de la réflexion, il faut le temps de la méditation pour ne pas précipiter les choses. Mais il faut se dire aussi que les êtres humains ne sont pas aussi rationnellement... Il n'y a pas de rationalité finie au niveau du comportement des êtres humains. Il y a un auteur très célèbre, prix Nobel, qui s'appelle Herbert Simon, qui dit que les comportements des individus sont toujours... Les individus s'adaptent toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en mai 2019, nous avons travaillé sur cette constitution, mais c'est le temps de la réflexion. Bon, que ce soit à la veille ou pas, bon, il n'y a pas de timing. Un bébé, ça prend combien de temps pour venir au monde? C'est 9 mois. Et il faut que ça travaille. Et le temps où le bébé sort, ce n'est pas 9 mois. Bon, c'est quelques minutes avec un bon travail de médecin.
Justement, les reproches qui vous sont adressés souvent aussi, c'est que, allez, pour les députés actuels, étant donné que votre mandat est fini, allez, vos prérogatives ne vous donnent pas le droit alors de voter jusqu'à aller même d'ailleurs voter une loi ou une loi fondamentale.
Ça, ce que vous dites là, c'est, disons que c'est un fantasme de l'esprit. Ce que j'appelle fantasme de l'esprit, c'est qu'il n'y a aucun test juridique qui dit ce que vous êtes en train de dire. Vous ne pouvez pas me citer un seul test, pas forcément constitutionnel, une seule loi organique qui dit ce que vous êtes en train de dire. C'est ce que j'appelle fantasme de l'esprit. C'est-à-dire qu'on imagine ce qui pourrait être normal, normatif, et ce qui pourrait être réel. Là, ce que vous dites, on va dire que c'est la norme. Vous imaginez quelle pourrait être la norme. Mais on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc on est dans une communauté nationale, internationale, régie par des règles, régie par la loi. On peut réinterpréter la loi, on peut réécrire la loi. Mais dans le cas d'espèce, et à l'instant T, ce que vous dites là n'existe nulle part dans la Constitution qui interdit aux députés qu'à partir du moment où le mandat est en train de s'approcher à la fin, qu'il ne doit plus rien faire. Ce n'est pas, il y a une jurisprudence aussi en France en 2008. C'est vers la fin 2007 que la loi fondamentale de la France a été révisée pour passer à une autre législature. Donc, ce n'est pas, à partir du moment où il n'y a pas un test qui l'interdit formellement, le reste n'est que supputation, imagination. Maintenant, on peut dire que peut-être dans le futur, dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale ou dans la Constitution, il faut savoir introduire des articles qui limitent le temps de travail des députés. Voilà, c'est ça. Mais pour le moment, il n'y a aucun test juridique qui dit cela. Donc, ce n'est qu'une supputation, ce n'est qu'une imagination, ce n'est qu'un souhait.
D'accord. Monsieur le député, Sylvestre Benia, une question pour vous.
Oui, j'ai écouté religieusement monsieur le député soutenir l'initiative. Je crois qu'il fait partie même des initiateurs. Oui, vous confirmez?
Bon. Je crois qu'on est ensemble ici, on a écouté Pascal.
Non, c'est juste une question. Oui. Alors, donc,
ce n'est pas un interrogatoire.
Non, tout à l'heure, je l'ai écouté, il disait que les gens ne lisent pas beaucoup, sinon ils doivent savoir que le régime parlementaire est adopté en Italie. Mais moi, je me dis plutôt que c'est les initiateurs de la loi là qui ne lisent pas. Sinon, ils doivent savoir que au lendemain donc, de la Deuxième Guerre mondiale, à 74 ans, l'Italie, qui a adopté le régime parlementaire, a changé son gouvernement 67 fois. En 74 ans, 67 fois. Ça veut dire qu'en réalité, le régime parlementaire est un régime en réalité qui est instable. Puisque l'Italie, lorsque vous voyez l'Italie, il n'y a pas souvent donc, de parti majoritaire. Donc, il y a souvent des alliances. Et donc, lorsqu'il y a des alliances et qu'il y a quelques soucis avec les groupes, le gouvernement tombe. Donc, à chaque fois, et ils sont restés dans ce même schéma, jusqu'à ce qu'en 74 ans, ils ont eu 67 gouvernements. Alors, si nous avons quand même lu, il y a quelques jours, la chef du gouvernement, aujourd'hui italien, Giorgia Meloni, disait qu'elle va faire voter, c'est le chef du gouvernement aujourd'hui, sera élu au suffrage universel. Et c'est avec ça qu'elle a fait la campagne. C'est-à-dire qu'elle a constaté que le régime parlementaire est un régime instable, et qui fait tomber le gouvernement. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est d'aller vers le suffrage universel pour que le premier ministre, ou du moins, si vous voulez, parce qu'eux aussi disent le président du Conseil des ministres, pour que le président du Conseil des ministres, comme ils l'ont appelé chef de gouvernement, premier ministre, soit élu au suffrage universel. Mais ceux que nous copions et qui ont expérimenté cela pendant 14 ans reviennent au système que nous avons aujourd'hui et que nous changeons.
C'est pas vrai.
Voyez-vous, non, vous pouvez lire, je vous donne si le lien.
Question,
oui, donc, voilà, donc aujourd'hui, c'est pour dire en réalité que...
Vous posez la question.
C'est pour dire en réalité que ceux qui veulent expérimenter des choses que l'Italie recuse aujourd'hui, je crois qu'ils ont tout faux.
D'accord.
D'accord,
je peux... C'est votre... Oui, voilà.
Je crois que c'est le prénom...
Oui, c'est Sylvestre.
Sylvestre. Bon, je pense qu'on n'a pas forcément besoin... Bon, le micro est suffisamment... loin, on n'a pas besoin forcément de crier très fort pour que on puisse nous entendre. Mais bon, ça.
Non, mais
attendez, vous m'avez demandé si je suis initiateur, tout ça. Donc chacun a le droit de. C'est la démocratie dont nous discutons. Je peux vous poser une question. Donc je réponds à la question. Giorgia Meloni, Italie, que vous avez cité.
Oui.
Je ne vais pas dire autre chose. Je vais utiliser ce que vous avez dit. Vous avez dit que Giorgia Meloni est en train de chercher...
Elle a même fait la campagne.
Lui, non. Elle est en train de chercher à proposer une réforme pour faire passer l'élection du chef du gouvernement, du président du conseil. Elle n'a pas parlé du président de la République. Elle a parlé du président du... Non, non, c'est ce que vous avez dit. Le président... Attendez.
Allez-y.
Oui, le président du conseil. C'est toujours le premier ministre. Donc... Le suffrage universel, on attend de voir ce que c'est exactement, ce que propose Giorgia Meloni. C'est toujours le président du Conseil. Et les élections législatives donnent déjà, constituent déjà le suffrage universel. Maintenant, ce que peut-être elle dit, c'est que ce n'est plus les députés élus qui vont désigner, qui vont désigner le président du Conseil, mais que c'est le suffrage, c'est-à-dire il y a une élection du Premier ministre.
Oui.
En l'occurrence, c'est ce que vous êtes.
C'est le peuple.
Oui.
Suffrage universel.
Mais c'est ce que je dis. Ça dit qu'il y a une élection, on va élire un Premier ministre.
Voilà.
Pas le président de la République, mais un Premier ministre. On reste à peu près dans le même schéma, puisque en Italie, on a un président de la République et on a un président du Conseil. Et le président du Conseil est désigné normalement par la majorité qui est élue après les élections législatives. Et vous dites qu'elle est en train de proposer que ce président du Conseil soit élu directement par le peuple. Bon, c'est un format. On peut dire, ok, d'accord, moi, on va aux élections législatives. Peut-être président législatif, comme ça se passe en Afrique du Sud. Le premier candidat, celui qui est pressenti pour être président de la République ou président du Conseil, peut être en tête de liste. C'est-à-dire qu'on a la liste des députés et celui qui est pressenti est en tête de liste. Ça peut être le cas, mais dans le cas d'espèce, on reste toujours dans un régime parlementaire.
Non.
Puisque le président de la République existe aussi.
le président de la République existe. À partir de là, le régime n'est plus présidentiel. Le régime est parlementaire. Parce qu'on élit un président du Conseil, c'est-à-dire un premier ministre.
D'accord. Voilà. Fabrice a une question pour vous.
Oui, merci. Bon, d'abord, je vais faire un petit commentaire sur l'exemple de l'Italie et puis ensuite poser la question aux députés. Alors, il faut dire qu'il n'y a pas que l'Italie qui expérimente aussi le régime parlementaire.
Absolument, hein. Absolument.
En Allemagne, c'est également un régime parlementaire rationalisé. Tout se passe plus ou moins bien. Absolument. Et le cas de figure que décrit mon confrère, ça se retrouve dans des situations où aucun parti ne se retrouve majoritaire au Parlement et qu'il faille passer par des coalitions pour pouvoir dégager une certaine majorité. Donc, c'est un cas de figure qui existe. Mais de façon globale, quel que soit le régime, il y a forcément des avantages et des inconvénients. Moi, personnellement, le contenu du régime parlementaire tel qu'enseigné, il regorge beaucoup d'avantages. Absolument. Il y a également quelques inconvénients par rapport à certaines circonstances. Idem pour le régime présidentiel également, qui a aussi des avantages et aussi des inconvénients qu'on soulève. Maintenant, ma question, par rapport, j'ai la chance d'avoir en face de moi le député, parce que depuis vendredi où l'exécutif a renvoyé le test à l'Assemblée nationale, ça a été d'ailleurs la une de mon journal, je m'interroge, je m'attendais à ce que peut-être l'Assemblée se retrouve déjà mardi, puisque lundi était férié, ou mercredi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le temps ne joue pas contre vous, puisque déjà à partir de demain, on entre en campagne électorale. Alors, même si, toujours sur la base du fait que l'actuelle législature reste en fonction jusqu'à la nouvelle, alors est-ce que, quelque part, vous aurez le temps nécessaire? Comment ça va se passer?
D'accord. Merci pour la question que je trouve très très brillante, comme d'ailleurs l'intervention de Fabrice. Je crois que effectivement le test, disons que lorsque le test a été voté, le test a été transmis par le bureau. Le test voté a été transmis par le bureau de l'Assemblée nationale au président de la République, qui, comme je le dis, est un homme de paix et qui est le garant, le seul garant de la quiétude et de la sérénité dans le pays. Et on voit par ailleurs qu'au-delà du Togo, le président de la République, Faure Gnassingbé, joue un rôle de pacificateur à l'échelle internationale, à l'échelle de la CEDEAO. On a vu tout ce qui s'est passé il y a quelques semaines en arrière au regard des problèmes du Niger. Donc pour revenir sur la question de la relecture, et est-ce que le temps est contre nous? Bon, moi je ne pense pas que cette question-là, ça soit un temps, c'est pas un match de football où il y a un temps qui joue, il y a quelqu'un qui mène et il y a un temps qui joue contre une équipe et pour une autre équipe. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est comment est-ce que le Togo va vivre démocratiquement avec des institutions fortes sur les prochaines années, sur les prochaines générations. Moi, je dis toujours que à partir du moment où on change des règles dans une communauté, la règle, elle est valable, elle s'applique à tout le monde, à tous les participants de cette communauté. Donc, ce n'est pas tant qu'il y a un parti à gauche et un parti à droite, et donc il y a un temps qui est en train de jouer. Bon, même si on veut jouer sur ce tableau de temps, on connaît bien le marteau. Vous avez suivi la Coupe d'Afrique des Nations. La question de timing n'est pas tant importante. C'est l'objectif qui est fixé. Est-ce que tôt ou tard, on arrive à mettre en place un système tel que les Togolais le souhaitent? Je répète, moi, j'ai regardé à la télévision, j'étais à l'école primaire, mais j'ai regardé toutes les séances de la Conférence nationale souveraine, depuis la mise en place du bureau d'âge, jusqu'à la nomination au vote de Monseigneur Pauvre pour personne, non, pour mener les travaux jusqu'à leur fin. Je dis, là, il faut lire. C'est l'acte 66 qui propose un régime parlementaire. Qui est-ce qui avait motivé ces personnes-là à proposer un régime parlementaire à l'époque? On ne doit pas occulter ça. Ça ne peut pas être occulté. C'est l'acte 7, article 66. Il faut aller récupérer ça. Ça fait partie de l'histoire du Togo.
D'accord.
À partir de ce moment-là, je parle de la relecture. Oui. Est-ce que le temps joue contre quelqu'un ou pas? Moi, je ne pense pas que le président de la République
à bon, écouter. Je réponds à la question. Le président de la République, à partir du moment où le TSE est arrivé à son niveau, a écouté les discussions qui se faisaient dans la communauté, a écouté les évêques, a écouté les interventions des uns et des autres, et par la grande sagesse, a décidé de renvoyer le texte pour lecture à l'Assemblée nationale.
Non, mais sur ce coup, monsieur le député, oui. Alors ici, le chef de l'État renvoie le texte à l'Assemblée nationale. Comment vous expliquez cela? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un manquement?
Bon, le chef de l'État, justement, a le droit. C'est le garant, c'est l'arbitre. Donc, est-ce que personne n'est parfait? Pourquoi vous... Je ne comprends pas pourquoi on dit qu'il y a un manquement. La question du manquement ne se pose pas. Rien n'est parfait. Le chef de l'État est en dehors du processus. Les députés ont le droit, comme j'ai dit, de proposer quelque chose à la nation. Et c'est le garant. Et donc, il joue son rôle.
D'accord.
Parce que d'aucuns disent que... Ah non, 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 ce sont les députés...
En fait, il n'a pas répondu en fait à la question de Fabien.
Est-ce que le temps joue? Il va reformuler la question.
C'est une proposition de loi.
Oui.
Et cette proposition de loi vient... C'est la sixième législature.
Tout à fait.
Vient de la sixième législature. Dont le mandat est en train de finir. De toutes les façons, s'il y a élection
à partir de demain,
le 20 avril, et qu'il y a d'autres députés à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si les mêmes retrouveront leur poste à l'Assemblée, forcément il y aura des changements. Alors, c'est-à-dire, ceux qui ont porté l'initiative de la proposition, ils sont actuellement dans l'actuelle législature. C'est pour savoir, pour cette relecture, puisque le chef de l'État parlait d'un test qui peut être perfectible.
Oui.
Ça voudrait dire que peut-être quelque chose va changer dans le contenu. Ma question, c'était de savoir, est-ce que cette législature est capable de faire cette relecture avant qu'on ne bascule dans la septième législature? Ou alors, c'est possible aussi que... ceux qui viendront après reprennent le flambeau qui est déjà allumé.
Voilà, donc vous avez deux hypothèses. Vous avez deux hypothèses qui sont claires, qui sont parfaites. Vous avez une hypothèse de court-termiste et puis une hypothèse qui est de moyen terme. Voilà, donc ce que je peux vous dire, on le sait, le texte a été renvoyé à l'Assemblée nationale pour relecture. Bon, vous avez ce qu'on appelle le cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale. Bon, donc il faut que le cabinet apporte une réponse au président de la République. À partir du moment où le cabinet va terminer son travail, puisque le cabinet continue de travailler, l'Assemblée nationale n'est pas en vacances. Donc, à partir du moment où le cabinet finit son travail, on va nous mettre au courant de ce qu'il en est de ce test. Deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse de moyen terme, c'est que le Togo n'est pas une république qui s'arrête à un temps T. Donc, ça a hésité, ça continue d'hésiter. Et pour des institutions fortes que nous demandons, si un test semble être un test qui est bon pour le pays, que ce soit individu lambda ou mouton Y qui a proposé ce test-là, si la législature, les députés qui arrivent trouvent que c'est bon, ils vont reprendre. Nous sommes arrivés en 2018 et nous avons voté des tests qui avaient été préparés par la législature passée. Donc, dans la République, c'est toute somme normale. Donc,
D'accord. Monsieur Soudeke, Abbas Issaka a une question pour vous.
Oui, une question. C'est pour faire une petite remarque par rapport... Je crois que nous sommes là, on est en train de parler, mais on oublie qu'on est en train de faire même le parlementarisme à la base. Parce que quand tu prends l'exemple des conseillers municipaux, nous élisons les conseillers municipaux qui élisent en leur sein les maires.
C'est-à-dire que ce n'est pas le peuple qui a élu.
Ce n'est pas le peuple qui a élu le maire.
Directement.
Oui, c'est les gens, les conseillers municipaux que nous avons élus. Qui ont élu les maires qui dirigent actuellement les communes. Bon, ma question que je vais poser, le chef de l'État a entendu les uns les autres, il les a écoutés, il a renvoyé maintenant pour relecture. Bon, Fabrice a posé la question, mais moi je voulais poser autrement. Comment va se passer la relecture au niveau de l'Assemblée? Comment ça va se passer? Et de deux, quels sont le règlement intérieur? Quelles sont les procédures, le processus qu'il prévoit pour la révision ou pour la relecture de ces textes?
Merci beaucoup pour la question. J'avoue que je suis encore une fois content d'être là ce matin. Et il faudra que vous m'invitiez au-delà des questions politiques, d'autres questions aussi.
La question est précise. Donc, j'ai commencé déjà par donner une réponse. C'est-à-dire, quel est le processus? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, le test a été envoyé au président qui a retourné le test à l'Assemblée nationale. Donc, il y a le cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale qui a aussi en son sein ce que nous appelons la conférence des présidents. Vous avez des commissions à l'Assemblée nationale et il y a des présidents de cette commission. Donc, cette présidente de commission aide la présidente de l'Assemblée nationale à prendre des décisions. Donc, une fois que le test a été lu par le cabinet, donc, il y a une conférence des présidents de l'Assemblée nationale qui est normalement convoquée ou qui va être convoquée pour regarder quels sont les... Puisqu'on dit le test a été renvoyé, ça veut dire que le président de la République, avec son cabinet, a aussi fait des remarques, voilà, sur le test. Donc, on va... Le cabinet de la présidente et le conseil des présidents va regarder quelles sont les remarques qui ont été faites, quelles sont les modifications possibles que le cabinet du président a proposé et convoquer, renvoyer le test à la commission des lois. Bon, c'est vrai qu'on dit qu'on parle des députés, mais il y a une commission des lois qui étudie les tests, la commission des lois qui est présidée par le ministre Tchaline. Donc, à partir du moment où le cabinet du président de l'Assemblée nationale envoie le test à la commission des lois, c'est la commission des lois maintenant qui convoque les membres de cette commission pour une étude en commission de cette loi qui est envoyée pour relecture. Et quand la commission des lois aura terminé son travail, on va resoumettre à nouveau, on convoque à nouveau la plénière pour adopter, pour regarder le test et l'adopter. Et je rappelle que les députés, jusqu'à ce que les nouveaux députés ne soient élus, les députés sont toujours dans leur fonction et rien dans la Constitution, ni aucun test organique ne dit que les députés doivent vaquer à des activités courantes ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun test qui le dit et que ce n'est que un fantasme d'esprit et des suppositions.
D'accord.
Le deuxième point en rapport avec le règlement intérieur, donc c'est tout le processus que je viens de décrire est compris dans le règlement intérieur. Voilà, donc voilà ce que le chemin que le test doit suivre. Maintenant, la présidente de l'Assemblée nationale peut décider de ne pas renvoyer le test. C'est une hypothèse de ne pas renvoyer le test en étude en commission. Il peut formuler une réponse dans le sens avec des arguments et renvoyer au président. Elle a le droit de formuler aussi des réponses. Voilà, on est dans des hypothèses. Maintenant, on attend de voir quelle va être la décision du cabinet de la conférence des présidents, de la présidente de l'Assemblée nationale pour décider de convoquer les députés en commission et ensuite à la plénière ou pas.
D'accord, monsieur Soudotin, c'est vrai que des critiques sont plus adressées à la procédure, hein, à la procédure alors pour le vote ou l'adoption alors de ce test. Et c'est vrai, quand vous écoutez l'opposition aujourd'hui, je veux bien parler de la classe politique de l'opposition, d'aucuns parlent même d'ailleurs de braquage constitutionnel. Et nous étions avec M. Jean-Pierre Fabre hier, il en parlait bien sûr. Il y a des reproches qui sont donnés même d'ailleurs à ces tests, ou à la procédure surtout, hein, à la procédure. Alors, dites-nous, pourquoi pour l'adoption même d'ailleurs de ce test, il n'y a pas eu de sensibilisation en amont? C'est-à-dire, les populations à la base n'ont pas été sensibilisées, puisque nous sommes en train de parler d'un changement de régime, nous sommes en train de parler de la Constitution.
Si tu veux, je peux juste...
Je vais répondre à une question à la fois. Parce que...
c'est bon, on va y aller.
Bon, voilà, donc, je réponds à la question de braquage constitutionnel. Je réponds en disant qu'on est toujours dans le marchandage des mots. Voilà, on gonfle les mots pour susciter, pour activer des éléments dans le cerveau d'un certain nombre de... Bon, ça peut être de ses partisans, etc. Mais je continue de dire que c'est un fantasme de l'esprit que de dire que c'est un braquage constitutionnel. Non, les députés sont dans leur rôle qui travaillent à l'Assemblée nationale. Les gens disent pourquoi à minuit? Que à minuit, c'est... Bon, on imagine que les voleurs vont aller braquer à minuit. Non, à l'Assemblée nationale...
Donc, on parle même d'un test en catimini.
Mais non. Il y a des journalistes qui viennent à l'Assemblée nationale. Et au début de la session actuelle,
au début de la session à laquelle la présidente de l'Assemblée nationale invite les ambassadeurs, les journalistes, la communauté togolaise, elle a annoncé.
Oui, mais le souci, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas la mouture finale.
C'est-à-dire que c'est parfois, il y a des choses qu'il faut réclamer, il y a des choses qu'il ne faut pas réclamer aussi à corps et à cri. Il y a plusieurs textes qui sont votés, et il y a en 2019, quand on a limité le mandat du président à 5 ans à 2 mandats, personne ne s'est levé le lendemain pour dire où se trouve la mouture, quand est-ce que c'était. On a voté ce test à 1h du matin. Mais comme ça arrangeait une partie de l'opposition, tout le monde s'est tué. Donc on ne peut pas acculer les députés qui sont dans le travail. On a commencé le travail à 9h du matin. Et à chaque fois, quand on arrive à 18h, la présidente de l'Assemblée nationale dit, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on revient le lendemain? C'est les députés eux-mêmes qui applaudissent pour dire non. On n'a qu'à continuer le travail et finir le travail, partir à la maison et vaquer à d'autres occupations le lendemain. Ce n'est pas du tout un truc en catimini. Et pendant cette période de vote-là, les journalistes étaient là. Et donc, ce n'est pas une question de catimini. Et puis, la question qui est relative au fait que pourquoi on n'a pas sensibilisé en amont, on dit chez nous qu'il n'est jamais trop tard. On peut toujours faire les choses. Et moi, je n'ai pas vu, c'est vrai, mais il y a des tests qui ont des tests fondamentaux qui ont été votés sans forcément passer par la case sensibilisation. C'est ce que disait tout à l'heure votre collègue, dont j'ai apprécié les propos, parce qu'il faut être honnête, il ne faut pas gonfler les mots, il ne faut pas susciter de la haine pour rien du tout. Il explique bien que, est-ce que finalement, cette question du régime parlementaire, est-ce que les Togolais ne sont pas déjà en train d'être sensibilisés depuis les élections municipales? Et je trouve qu'il a parfaitement raison. Et les maires sont élus, les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel. Et après, ce sont ces conseillers municipaux qui désignent le maire qui a finalement tous les pouvoirs dans les mairies. Vous voyez? Et donc, est-ce que ce n'est pas ce régime parlementaire que nous sommes pas en train d'expérimenter depuis les élections municipales et bientôt les conseils régionaux aussi? Alors, pourquoi pas l'appliquer? Développement à la base, pourquoi pas l'appliquer au sommet des décideurs politiques? Je trouve que ça a du sens.
D'accord. Sylvestre?
Oui, juste deux questions. Je crois que c'est la même législature, c'est-à-dire la sixième, qui a fait limiter le mandat en 2019. Et vers la fin donc, de leur mandat, ils sont revenus sur cela, donc en changeant maintenant le régime. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils se sont reprochés un certain nombre de choses quand ils limitaient le mandat en 2019? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ma deuxième question, ceux qui parlent donc de braquage constitutionnel citent donc l'article 144 de la Constitution, qui dit qu'aucune révision ne peut être opérée en période intérimaire. Voilà, c'est l'article 144, puisque tout à l'heure, monsieur le député disait qu'il n'y a aucune disposition qui leur interdit donc d'opérer en période transitoire, si on peut le dire.
Non, je n'ai pas parlé de transitoire.
Donc maintenant, il y a l'article 144 de la Constitution qui dit qu'aucune révision ne peut être opérée donc, en période de transition ou en cas de vacances. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a cette disposition-là et que vous avez opéré? C'est pourquoi certains disent que c'est un braquage. Donc, deux questions.
Oh, j'ai deux questions.
Je peux répondre. Oui, c'est bon.
Allez-y. C'est un très bon orateur. C'est un très bon journaliste. Et bon, les questions sont très, très bien formulées, je trouve. Donc, ce que je cherche à dire, en tant de mandat, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai parlé de Herbert Simon.
Vous aimez les citations?
Bon, le monde est fait avec ça et l'histoire, notre vécu est fondé par notre histoire aussi. Il disait que les comportements des êtres humains ne sont pas toujours rationnels. La rationalité n'est pas finie, elle est adaptative, voyez. Et donc vous-même, en venant tout à l'heure ici, bon, vous avez expliqué que oui, j'ai fait 2-3 trucs dont je ne suis pas arrivé à l'heure. Donc ça veut dire que c'est l'adaptation. Vous avez prévu d'être là à 10h45. Mais il y a des choses qui ont fait qu'en temps, bon, c'est ça l'adaptation. La rationalité n'est pas terminée. Maintenant, revenons à l'article 144. Parce que j'ai déjà expliqué pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. On a voté deux mandats et on est arrivé maintenant, on dit, c'est plutôt 6 ans non renouvelables. Bon, ça, c'est déjà quand même une évolution pour le président de la République. Maintenant, l'article 144 dont vous parlez, vous parlez bien de période transitoire. Vous avez utilisé le mot
intérimaire.
Et vous avez utilisé aussi vacances. Aucun de ces mots ne s'applique aux députés actuels. On n'est pas en période transitoire. Quelle transition?
Vous n'êtes pas en intérim non plus.
Quel intérim? Il n'y a pas de vacances.
Vous avez fini depuis.
Pas du tout, on n'a rien fini. Non. C'est ce que je dis que la présidente. Non, pour le public. Non, voilà. pour les éditeurs. Il faut que ça soit clair. Il faut que absolument ça soit clair. Et je suis ici pour faire de la clarté.
Tout à fait.
Oui. Et les mots qui sont utilisés, tout le monde comprend le français. Oui. Et je dis qu'on n'est pas en intérim. Il n'y a pas d'intérim. Transitoire, on n'est pas en transition. Vacances, on n'est pas en vacances. Donc je crois que Yves lui-même va aller dans sa presse pour écrire, pour expliquer définition. Transitoire, c'est quoi? Intérimé, c'est quoi? Elle dit que les députés ne sont pas en transition ni en intérim. Voilà. Et pour ça, permet d'expliquer aux gens, que les gens comprennent les choses.
D'accord. Merci. D'accord. Oui, Fabrice?
Non, c'est pour dire effectivement.
Il dit des questions pour vous avez
c'est la démocratie. Sur cet aspect, je crois que nous avons une jurisprudence très riche, hein, où le mandat des députés est arrivé à terme, il reste en fonction et continue les activités. Même 113 députés, c'était pas intervenu. C'est intervenu à quel moment? Mais les gens n'ont rien dit.
Voilà, c'est ça.
Même quand vous prenez la législature entre 2006 et 2007, quand il fallait aller avec l'accord politique global, en 2013, les élections devaient être organisées en 2012. Mais on est allé les organiser jusqu'en 2013. C'est et ça. Avant ça, il y a eu d'importantes décisions qui ont été prises, surtout permettant à une description de la situation politique, permettant à certains opposants d'être candidats. Absolument. Donc, il y a une jurisprudence très riche où, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale est arrivée à terme, mais reste en fonction. Et quand elle reste en fonction, il y a eu des décisions très importantes qui ont été prises dans l'histoire du Togo. Et bon, je crois que sur ce point, pour moi, il n'y a vraiment pas de débat.
D'accord. Abbas, il y a une question.
Je pense que, voilà.
Abbas, toujours pas M. Sodoké. Il faudrait quand même qu'on lui pose.
Juste, il n'y a pas de souci. Oui, voilà. Il n'y a pas de souci. Abbas,
ouais, j'ai une précision par rapport à cette question d'intime et de transition. Je pense qu'il faut bien voir les choses. Quand on parle d'intérim, c'est qu'il n'y a plus chose. Il n'y a plus personne pour continuer à travailler.
Absolument.
On parle de vacances de pouvoir. Il n'y a plus quelqu'un. Exactement. Aujourd'hui, la loi, l'article 52, ne dit pas que c'est l'intérim que les gens sont en train d'exercer.
C'est ça.
On dit qu'ils sont en fonction.
C'est ça.
Et la fonction d'un député, c'est quoi? C'est de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement. Aujourd'hui, lorsqu'ils ont ouvert la session en début d'année, je crois que c'était en février que la session actuelle a été ouverte.
Absolument.
La session a dit, nous vous ouvrons une session. Et puis, on a donné le chronogramme des lois. Absolument. Qu'on devait faire.
Sur une période donnée.
Sur une période donnée. Et ce chronogramme de loi.
31 décembre 2023.
Non. J'ai dit la session qui a été ouverte.
En février.
En février.
2024.
Récemment.
Tu parles de la session ouverte, oui.
Et c'est à cette session-là que la prorogation de dans la zone dans la prorogation
de sécurité absolument
a été votée. Et c'est au cours de cette session là que le nombre des députés a été monté de 91 à 113.
Personne n'a rien dit.
Donc aujourd'hui
ici nous parlons de la constitution. La loi fondamentale.
La loi leur donne le droit de le faire. D'accord. On dit 4-5.
Ouais. Non. OK, il nous reste deux minutes
juste pour l'article 59 l'alinéa 2 qui dit que c'est-à-dire que le président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable et il est dit dans l'alinéa 2 que cette disposition ne peut qu'être modifiée par voie référendaire. L'article 59 l'alinéa 2. Qu'est-ce que vous en faites?
Oui, député. Non, je crois que la question comme ça, mon député, tout ça, bon, ça, c'est la discussion.
Tout
à fait. Parce que bon.
Sinon, monsieur Sodoké.
Voilà. Donc, Sylvestre, moi, je vous apprécie beaucoup. Je dis que vous êtes un très bon orateur.
Je n'ai pas
encore lu les textes que vous écrivez, mais si vous écrivez, vous m'envoyez, je vais lire. En fait, ce que vous venez de dire, ça a déjà sa réponse. Le texte, les députés ont le droit de proposer un texte et de voter. Maintenant, il revient au président de la République de regarder le texte dans toute sa légalité, des procédures, etc., y compris de regarder si ce qui est voté par les députés est conforme à l'article 52, etc., et de promulguer
le test. Et donc, c'est vient de dire que nous venons de discuter du fait que le président a renvoyé le test en relecture. Donc, c'est là où vous voyez un président qui est le garant, qui est quand même au-dessus de la mêlée, parce que chacun joue pour son parti. Les députés jouent pour leur parti, ils sont majoritaires à l'Assemblée. D'autres personnes jouent, mais le président est au-dessus et fait l'arbitre. Et il vient de faire l'arbitre, je crois qu'il faut le féliciter.
Donc, on peut espérer que le président demande qu'on aille au référendum.
Mais il a le droit d'amener le test au référendum. Il peut promulguer comme il peut renvoyer au référendum. Oh, et donc, je crois que vous venez de faire un bon banc pour le président. Je voulais vous féliciter pour ça.
D'accord. Monsieur le député, cette dernière question, avant d'aller à la pause, puisqu'il est déjà pratiquement midi. C'est vrai, quand on prend l'aspiration des Togolais aujourd'hui, c'est vrai, les Togolais aspirent au développement. Et quand vous prenez le quotidien du Togolais, le Togolais veut manger à sa faim. Le Togolais veut l'électricité chez lui. Le Togolais veut ci, le Togolais veut ça, bien sûr. Et quelle est la relation entre un régime parlementaire et le développement?
Bon, ce rapport peut ne pas être la relation dont on parle. Peut ne pas être évoqué en quelques minutes seulement. On peut voir plusieurs aspects de cela. Parce que quand vous prenez le test, même quand vous prenez une constitution, ça ne regarde pas seulement l'élection du président de la République, l'élection du premier ministre, etc. Non. Vous avez toutes les dispositions en lien avec le fonctionnement de la République. Comme par exemple dans la nouvelle mouture que nous avons, on propose par exemple d'avoir un protecteur des citoyens. Ça, c'est une innovation. Avant, on avait un médiateur, mais on a pensé qu'il faut aller à un protecteur des citoyens pour donner une force à ce protecteur. Juste sur ce point-là, c'est quand même un protecteur. C'est pour assurer le bien-être des uns et des autres qui peut-être seront abusés par des institutions, par des administrations. Et là, juste pour répondre sur ce point précis, que c'est un facteur de développement économique, puisque le développement, ce n'est pas seulement la croissance, mais c'est aussi le développement social, le bien-être psychologique, subjectif, etc. Sur ce point-là, on peut déjà apporter une réponse clé en rapport avec le fait que le test prévoit la mise en place d'un protecteur du citoyen et qui est une innovation qui peut permettre un meilleur développement. Voilà.
Mais est-ce que ça veut dire que l'ancien régime que nous utilisions, et puis c'est vrai que nous ne sommes pas encore entrés dans la nouvelle et comment dans le nouveau régime, mais est-ce que ça veut dire que ce régime a montré ses limites?
Non,
quand
vous regardez le test, c'est vrai, si vous venez à l'Assemblée nationale, il y a des journalistes qui ont accès aux tests, ils peuvent avoir accès aux tests. Il y a des amendements, et je voudrais rappeler que c'est toujours la Constitution de 1992 qui est dans sa dernière révision, qui date de 2019, qui continue de se parfaire. On essaie de la perfection. Et donc, je crois que c'est pas que le développement, on a échoué, que la Constitution a échoué au niveau du développement. Le développement, c'est pas seulement la Constitution. Parce que la Constitution, c'est vrai, met en place des dispositions légales pour conduire la vie dans la cité. Vous avez un entrepreneur, par exemple. Un acteur important du développement économique, ce sont les entrepreneurs, parce que c'est eux qui créent la production, c'est eux qui créent l'emploi, etc. Donc, vous allez regarder que dans la Constitution, on va mettre des dispositions qui disent que, bon, voilà, par rapport, si on commet une telle fraude, etc., que ça va donner lieu à des sanctions. Donc, c'est ça la Constitution. Mais la question du développement est beaucoup plus large, et qui déterminait pas la Constitution, la loi fondamentale, mais il y a d'autres aspects qu'on peut discuter.
D'accord, merci beaucoup Monsieur Kofi Sodokin, député à l'Assemblée nationale, d'être venu ici pour répondre à nos questions. Professeur à l'université, bien sûr, professeur à l'université de Lomé. Je sais que vos compatriotes, nos auditeurs vous ont écouté pendant pratiquement une heure de temps. Ils auront forcément alors des questions à vous poser, mais bien avant, nous allons observer une pause et nous revenons.
93.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la presse de ce mercredi. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 63 75 pour poser des questions. Nous sommes avec le député Kofi Sodokin, professeur également à l'université de Lomé. 22 21 33 114. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour Didier. Oui, comment
bonjour,
vous allez?
Monsieur Sodokin. Bon, vous n'avez pas répondu à la question du monsieur, de savoir si vous êtes, en tant que député, vous êtes signataire, vous faites partie des 1/5 qui ont signé la demande de changement de constitution. Et puis, pour continuer, je voulais vous dire, vous avez dit qu'on ne lit pas, on lit bien. Très bien, même le Togolais, on lit. Par exemple, moi, je vais vous parler, quand vous donnez souvent l'exemple de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie. Quand vous allez en Allemagne, là, l'Angleterre est composée des pays, hein, Écosse, Irlande du Nord, pays de Galles, l'Angleterre, même le Royaume-Uni est composé de ça d'État. Quand vous allez, par exemple, en Italie, l'Italie aussi connaît des régions, de 5 régions autonomes. Dans les régions, il y a 5 régions qui sont autonomes. Vous connaissez, en tant que professeur d'université, ce que c'est qu'autonome. C'est pas fini. Quand vous allez, par exemple, en Afrique du Sud, dont vous parlez, l'Afrique du Sud, c'est qu'on veut des régions, d'autres sont même autonomes. Ma question est de savoir, comme vous voulez faire du bien, pourquoi ne pas prendre l'exemple de l'Afrique du Sud, où le président, le chef, le président est élu, c'est un régime parlementaire, le président est à la fois président de la République et chef de gouvernement. Là, vous n'avez plus de l'article 59 qui oblige le président, qui limite les deux mandats. Et puis, pour en finir, vous-même, en tant que professeur de droit, admettons que vous n'êtes pas député, un beau matin, vous êtes là, en tant qu'intellectuel, un beau matin, vous êtes là, et vous rêvez, on vous dit qu'on a modifié votre constitution, et vous n'avez même pas les contenus de la constitution. Qu'est-ce que vous allez dire que c'est bien? Vous allez applaudir les députés? Merci beaucoup.
D'accord, merci beaucoup Didier. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô? 22 21 33 114 91 36 63 115. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Le nom Camille. C'est Camille.
Oui.
Oui, allez-y.
Souvent, quand je pose mes questions, les invités contournent et ne répondent pas. Donc, je vais essayer encore de mieux m'expliquer.
D'accord, essayez.
Pour qu'ils puissent me répondre.
Camille.
144.
Oui, Camille.
Oui.
S'il vous plaît, haussez un peu la voix.
Ok. L'article 144 donne mandat à 1/5 des députés d'aller faire des révisions. Je pense que je suis audible.
Oui, allez-y, on vous écoute.
Révision, le mot révision ne veut pas dire le mot changer, puisque changer veut dire remplacer. Or que révision, c'est examiner pour modifier. Maintenant, ils sont passés changer carrément. Donc, sur ce changement, je demande aux invités quel est l'article de la Constitution qui leur permet d'outrepasser les prérogatives de l'article 144 pour nous réécrire une autre Constitution. Parce que en le faisant, moi je trouve qu'ils ont renversé le régime qu'on avait. Et ce régime-là, l'article 148 dit: tout renversement de régime constitutionnel est un crime imprescriptible. Ça y est dans la Constitution.
D'accord.
Le faisant ainsi, ils ont fait un coup d'État constitutionnel. Est-ce qu'il est disponible à aller en prison pour ça? Merci.
D'accord. Merci beaucoup, Camille, pour votre question. 22 21 33 114 91 36 63 75. Un autre auditeur.
Allô,
bonjour.
Bonjour, c'est Monsieur Alain de Codomé.
Oui, Monsieur Alain de Codomé, allez-y.
Bonjour, professeur.
Bonjour, Alain.
Et j'aimerais vous demander si c'est le moment opportun pour le changement de la Constitution. C'est-à-dire, c'est le bon moment parce que ce qu'on doit faire qui serait vraiment apprécié par tout le peuple togolais doit être fait lentement, doucement, pour que ça dit le peuple togolais comprenne.
D'accord.
Mais on a fait une vote aux environs de 23 heures pour changer la constitution. Vous trouvez ça normal?
D'accord.
Merci.
Oui, merci beaucoup Alain. 22 21 33 114 91 36 315. Allô?
Allô.
Oui, bonjour. Allô. Oui, Daïssi, bonjour. Allô. Madame Essi, bonjour.
Oui, bonjour. Je vais hausser le ton un peu.
Oui.
Voilà. Vraiment, c'est terrible. Je sais que les élites sont formées pour défendre la République en danger dans les pays civilisés. Et quand je vois les nôtres là, qui viennent défendre l'indéfendable, alors que il y a une constitution qui est la loi, qui représente la loi d'une République. Je ne comprends pas. Est-ce que il est permis que des gens se rassemblent pour braquer toute une république durant 60 ans? Depuis 63, le régime qui vient défendre est là.
Oui, madame,
depuis 1963.
Oui, madame, ici.
Est-ce qu'il est permis? Oui.
Oui, si vous avez une question, posez la question d'une manière précise. Oui.
Qu'ils ne viennent pas nous expliquer quoi que ce soit, on n'en a pas besoin.
Mais
c'est de la retrahison de part en part.
Oui, votre question,
madame. Ils doivent répondre. Oui. Voilà quoi.
D'accord, merci
on
beaucoup.
A besoin de
mais décidément, madame, ici, il n'y a pas de questions. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô, oui, oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, bien, monsieur Kofi.
Oui, monsieur Kofi, allez-y.
Oui, je voudrais demander au monsieur là que.
Non, c'est
le moment.
Oui, papa, monsieur là, c'est le député.
Ah, d'accord, oui.
Le député Soudokin Kofi qui est là.
Ah, ok. Au député, si le moment est propice, je ne parle même pas de la fin de leur mandat. Hein. Si on peut voter des lois à la.
Allô? Allô, monsieur Kofi? Décidément, il est parti. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 115. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
C'est Arma.
Arma, oui, allez-y.
Bonjour, le plateau.
Oui, bonjour.
Oui, à voir, depuis que cette histoire a commencé, on dirait que les deux camps n'arrivent vraiment pas à s'entendre. Parce que depuis que j'ai commencé par suivre le déroulé du choc de ces deux blocs, c'est-à-dire ceux qui veulent mettre en place un nouveau régime et ceux qui sont contre. Parce que certains ne veulent pas, je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi, ils répètent les mêmes questions depuis. Ils parlent toujours de légitimité des députés. Alors, bon, qu'on est conscient que ces députés, ils sont légitimes dans ce qu'ils sont en train de faire.
Oui, monsieur Armand.
Oui.
Oui, si vous avez une question, posez la question clairement.
La question, c'est que
oui.
Je reviens un peu sur, après le renvoi du chef de l'État pour la réélecture, et bon, qu'est-ce que les têtes disent? Bon, est-ce que le chef, bon, combien de temps cela va-t-il se faire? Ou bien le chef d'État peut toujours attendre jusqu'à ce que peut-être une nouvelle législature prenne en compte.
D'accord. Merci beaucoup pour votre question. C'est bien noté. Allô?
Allô?
Bonjour. Le nom c'est
Monsieur Kwami. Ah,
Monsieur Kwami, oui. Vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Idranawi.
Idranawi, allez-y.
Et je voulais demander au.
Oui.
Bon, quand il est là, ils sont en train de citer cette affaire de cohabitation qui est toujours à demander. Est-ce qu'ils ont vu, il peut me dire, même le chef de l'État, comment c'était terminé?
Pardon, je n'ai pas bien écouté la question.
Oui, donc la cohabitation entre Kopigo et Adema. Pour la constitution, ils citent chaque fois. Est-ce que ce n'était pas terminé par la sécrétation des hauts conseils de la République? Est-ce que tu peux nous expliquer aussi là-bas?
D'accord, ok. Merci beaucoup, Kwami. 22, 21, 33, 114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Le nom c'est?
Abdel.
Abdel. Oui. Allez, allez-y.
Vous savez, la politique, c'est aussi une succession de cohérences. Vous avez énuméré deux actes pris par l'Assemblée nationale en fin de mandat. Vous savez, l'opposition, parfois, ne nous donne pas l'impression qu'il est cohérent. Bon, qu'elle est cohérente. Parce que, sur d'autres questions, on nous dira, par exemple, que gérer les affaires courantes permet aux députés de prendre l'initiative d'augmenter le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Et s'ils peuvent prendre l'initiative d'augmenter le nombre de députés à l'Assemblée nationale, cela veut dire qu'ils peuvent aussi prendre l'initiative de révision constitutionnelle.
Oui, tout simple. Abdel.
Oui.
Ça a été discuté ici, je pense. Si vous avez une question, posez-nous cette question.
Hier, j'ai suivi Jean-Pierre Fabre sur vos médias où il a dit un truc qui m'a paru un peu bizarre en faisant allusion au débat qui s'est passé le samedi dernier, qu'il recevait le message le matin et lui, il avait déjà un programme.
Oui, mais donc, oui, Abdel, oui, écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, oui. Monsieur Jean-Pierre Fabre n'est plus avec nous aujourd'hui.
Oui,
s'il vous plaît, posez une question au député Soudokin qui est là avec nous.
Je pose la question. Pourquoi vous, les journalistes sur le plateau, vous avez manqué de lui poser la question, à savoir...
D'accord, merci
si
beaucoup.
L'intérêt...
Merci beaucoup, Abdel. 22-21-33-114-91-36-63-75. Nous avons avec nous le député Kofi Sodokin. Vous pouvez lui poser des questions. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Canal FM.
Oui, comment vous allez?
Très bien, c'est Kofi de Salvador.
D'accord, c'est...
Kofi de Salvador.
Sassou?
Kofi
de... Ah, Kofi de Sabado, allez-y.
Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Je veux que le député M. Sodokin, l'honorable qui est avec vous, il fait partie de l'UNIR, bien sûr.
Oui, oui.
Voilà. Donc, il peut dire, en revanche, que tout ce qu'ils feront, c'est dans l'intérêt de leur parti. Si je ne me trompe pas.
Oui, allez-y avec
la
question.
Il n'a qu'à me dire, en termes clairs, l'article de notre constitution en vigueur qui autorise les députés, moi je ne parle pas de leur mandat, hein, l'article qui dit expressément que les députés ont le pouvoir de changer notre régime. Il n'a qu'à me le dire, c'en est l'article.
D'accord. Et ce serait tout? Ok, d'accord. Je pense qu'il est parti. Nous allons recevoir le dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Pélé?
Oui, c'est Pélé.
Voilà, Pélé, allez-y.
Ok, je salue le plateau. Je salue le Léonard.
Oui, bonjour.
Du RPT Unir. Ok, je pense qu'il y a la légalité, il y a la légitimité, il y a la morale. Lorsque la légalité va basculer devant la légitimité, c'est l'ouranga. Je voudrais demander à notre député s'il a permis le jour qu'ils vont aller à la deuxième lecture, le peuple togolais sera là avec sa carte d'identité, parce qu'on a dit que la séance est toujours ouverte, parce que nous allons tous nous présenter là-bas et ils vont nous faire la lecture, la réélection dont ils parlent. Comme ils ne veulent pas inviter le peuple même à venir vers le peuple, nous allons arriver vers eux. Parce que c'est tous ceux qui devront arriver vers le plus d'abord en leur ce qu'ils veulent faire de la cinquième
république. Oui, Pélé.
Oui.
Votre question, c'est...
Est-ce que c'est permis? Parce qu'on doit être là le jour ici. Il faut que
la relecture.
Que le peuple soit debout.
D'accord.
Il faut que le peuple soit debout.
Ok, merci beaucoup, Pélé. Merci pour votre question. Alors, je pense quand même que nous allons en arrêter là pour les manifestations téléphoniques. Hein. Nous revenons en plateau. Ici, monsieur le député, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer. Et il y a des questions également qui vous ont été posées. Si c'est possible, on va répondre rapidement à ces questions. On commence même par Didier. Didier qui a été le premier, même d'ailleurs, à appeler. Et il parlait alors de l'exemple alors de l'Afrique du Sud. Pourquoi ne pas adopter l'exemple de l'Afrique du Sud?
Bon, je trouve que c'est une très bonne question et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer tous vos éditeurs donc, qui vous écoutent. Et ça prouve que le peuple togolais est à l'écoute et qui ont posé des questions intelligentes et directes. Et ça augure du fait que le sujet a de l'appétence pour tous les Togolais. Et c'est ça la démocratie. Donc on s'exprime, on exprime parfois ses colères aussi. Et ça, on doit aussi l'accepter. Comme je dis, les individus n'ont pas une rationalité finie. Ils ont une rationalité adaptative. Et donc sur la question de l'Afrique du Sud, bon, le Togo a fait le choix d'avoir un régime parlementaire avec un président du conseil et non pas avec un président directement élu à l'issue d'un processus législatif. Donc, c'est un choix. Le Japon a aussi le même régime parlementaire avec ses spécificités. En Afrique, vous avez l'Éthiopie qui a aussi un régime parlementaire avec ses spécificités. Il a cité l'Afrique du Sud. Bon, le Togo est un pays indépendant, souverain et qui, à travers le choix des personnes qui sont issus d'une élection à travers les députés à son Assemblée nationale, prend des initiatives. Et donc, c'est en rapport avec le Togo. Et le Togo n'est pas l'Afrique du Sud. Et c'est un régime qui est souhaitable. Et donc, nous avons nos spécificités et nous avons choisi de faire la proposition en lien avec ce que nous avons fait. Et jusqu'à présent, je répète que
normalement, les gens doivent pouvoir normalement se calmer, et puis parce que ils ont, dans un premier temps, parlé, envoyé des messages au président de la République qui a bien écouté le message, les messages de tous les bords, hein, parce qu'il écoute aussi la radio, etc., et a répondu favorablement. Les gens lui ont demandé de ne pas promulguer en l'état. Et le chef de l'État a répondu, je crois que ça, toute la population doit quand même saluer ce rôle de garant, hein, de garant de la sérénité, de la quiétude. Puisque le chef de l'État a répondu, je ne vois pas pourquoi maintenant les gens continuent de faire comme si ce qu'on lui a demandé, il n'a pas donné une réponse. Il faut saluer cette réponse.
D'accord, on va y aller rapidement. Il y a Komi qui posait la question de ce changement de régime. Quel est l'article qui vous donne droit en tant que député à le faire?
C'est l'article 144 qui dit que le président de la République, concurremment avec les députés au 1/5, ont la possibilité de faire la proposition d'un amendement, de proposer une révision constitutionnelle. Donc c'est l'article 144.
D'accord. Allez, demande si c'est opportun aujourd'hui ce changement de régime.
Oui, je voulais aussi profiter pour dire que c'est vrai, j'ai dit que j'ai pas dit que les Togolais ne lisent pas. Je dis qu'il peut nous arriver de ne pas lire dans le fond les choses, parce qu'on peut lire l'article 144 comme ça se trouvait également dans la Constitution de 1992. Mais on peut toujours lire ça et l'interpréter comme les gens le font actuellement. L'article est là, c'est clair, mais les gens disent « Ah, quel est l'article ? Quel est l'article ?» C'est de ça que je parle. Bon, pour revenir à la question « C'est quoi l'opportunité ?» Donc, on en a parlé longuement. C'est possible aussi que les gens aient pris l'émission en cours. C'est que les députés sont dans leur travail. Et donc, bon, à partir de ce moment-là, il n'y a pas une question d'opportunité, etc. Non. Sont dans le travail, ils sont en train de réfléchir sur la question depuis longtemps. Donc, à un moment donné, quand la question était mûre à leur niveau, je dis bien les députés, bon, ils sont choisis dans le cours normal de leurs travaux, de soumettre à la commission, ensuite à la plénière.
Alors, Armand qui demande combien de temps les travaux de la relève peuvent passer.
Bon, de la même manière que on peut finir un travail qu'on a commencé à 9h, on peut finir ce travail-là à minuit ou à 1h du matin. Donc, il n'y a pas de timing. Voilà, il n'y a pas de timing tout simplement. À partir du moment où tout le monde est d'accord, on passe à l'étape supérieure. Mais si tout le monde n'est pas d'accord, bon, donc ça va attendre le temps que tout le monde soit d'accord. Je parle bien de l'Assemblée nationale. Le texte est renvoyé à l'Assemblée nationale pour lecture. Les députés vont regarder à nouveau les propositions d'amendements qui ont été apportées et ils vont discuter. Si les discussions s'arrêtent vite, on va passer à un nouvel vote. Si ce n'est pas terminé, bon, on va renvoyer ça à quand on pourra passer à ce nouveau vote.
Et Pelé demande si avec les travaux de la relecture, le peuple, beaucoup de personnes, enfin la population peut facilement participer à ces travaux avec déjà sa carte d'identité.
Bon, je dirais que si on réclame, on demande au chef de l'État que, puisqu'il a la possibilité de faire passer le test, de promulguer ou soit de faire passer le test par le biais d'un référendum, c'est le chef de l'État qui va décider. Bon, ils ont demandé au chef de l'État de ne pas promulguer. Le chef de l'État a répondu. Bon, ce sont des demandes qui sont formulées. On ne sait jamais ce que le chef de l'État va décider. Le chef de l'État a renvoyé le test en relecture. Les gens vont regarder ce qu'il a proposé, son cabinet a proposé comme amendement. Et puis la décision revient au chef de l'État de décider, de promulguer ou de faire passer au référendum. Ça, c'est le président de la République. Et moi, je ne suis pas dans sa tête.
Selon Kwami, allez, déjà, le régime parlementaire qui a été pratiqué où Kofi Go a été nommé Premier ministre, que ça ne s'est pas bien terminé.
Bon, moi, j'avais suffisamment l'âge d'être là, de regarder les choses. J'observais la vie politique de mon pays il y a très très longtemps, comme vous tous ici d'ailleurs. On ne peut pas comprendre ce qui se passe. On peut comprendre parfois les choses qui se passent au salon, mais dans la chambre à coucher, on ne peut pas expliquer. Si on demande à quelqu'un d'expliquer, la science lui dit très bien, d'expliquer comment on fait pour que l'enfant sorte, bon, on va peut-être retourner à nos cours de première ou de terminale, mais je ne crois pas que on aurait bien compris et dit exactement le bon Dieu, comment il fait vraiment pour que l'enfant sorte.
Nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin?
C'est l'apaisement, c'est-à-dire que le pays, le Togo est traditionnellement un pays de paix, même s'il nous arrive que Il peut y avoir des moments difficiles. Le Togo est traditionnellement un pays de paix, reconnu de par le monde. Et le Togo l'a encore prouvé cette dernière semaine avec la posture du président de la République qui a continué à défendre la paix. Et je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble pour garantir cette paix à la suite de longue période.
Merci beaucoup, M. Sodoquin. Sylvestre, merci.
Bon, merci malheureusement. Il a déjà prononcé ces mots de la fin. Mais moi, j'ai compris autrement la question du deuxième intervenant quand il parlait de changement de régime. En fait, l'article 144 parle de révision constitutionnelle. Mais ici, il y a une refonte totale. Il y a un changement de régime.
D'accord.
Je crois que M. Sodoquin a parlé de la
144. On va continuer.
Fabrice, merci beaucoup.
Oui. Oui, moi je crois qu'il y a une question sur que les auditeurs, tout le monde se pose l'opportunité de la révision. Moi j'ai ma petite analyse là-dessus. Hein. En tant que citoyen, alors si on devrait effectivement adopter ce régime parlementaire et que ce sont les députés qui désignent le président du Conseil et puis le président de la République, je crois qu'il faut qu'on le sache un peu plus tôt. Parce que les élections du 20 avril, je ne peux pas aller désigner des députés pour qu'ils contrôlent l'action du gouvernement, pour qu'ils votent les lois, et qu'au cours, après on me dit que ce sont les députés là qui doivent désigner le président. C'est pour cela qu'il faut que cette question-là se règle avant qu'on entre dans la prochaine législature.
La campagne même c'est demain.
Plus pour que les gens sachent que les députés que vous choisissez, c'est eux qui devront choisir.
D'accord. Merci beaucoup Fabrice, merci Abbas. Hein, c'est vrai que vous n'avez pas eu assez de temps, mais du moins vous avez tous compris que nous avions eu un invité, c'est pour cela. Merci beaucoup Monsieur Kofi Sodoquin.
Merci beaucoup Pascal.
Vous êtes député à l'Assemblée nationale, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakoucha a assuré la mise en ligne. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Je suis Pascal Ossou. Au revoir.